On va lire ce qui se passe dans 2 Samuel 6. On est en train de parcourir le livre de Samuel et on est arrivé au chapitre 6 de 2 Samuel. Et c'est l'histoire de David, le roi, environ 1000 ans avant Jésus-Christ, et qui a agi pour son peuple. Et il était en train de régner à Jérusalem à ce moment-là. Et voici ce qu'il se passe. 2 Samuel, chapitre 6. Alors je vais prêcher ce texte en deux parties. Donc je vais lire la première partie, et je vais prêcher la première partie, puis je vais lire la deuxième partie, prêcher la deuxième partie, et puis il y aura un bonus à la fin. Il faudra bien écouter jusqu'au bout pour entendre le bonus. 2 Samuel 6. David rassembla encore toute l'élite d'Israël, qui comptait 30 000 hommes. Puis, avec tout le peuple qui était à ses côtés, il partit de Baal-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, à laquelle est associé le nom d'Éternel, le maître de l'univers, qui siège au-dessus d'elle entre les chérubins. Ils mirent ce coffre de Dieu sur un char neuf et l'emportèrent depuis la maison d'Abinadab qui se trouve sur la colline. C'était Uzza et Akjo, les fils d'Abinadab, qui conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc depuis la maison d'Abinadab qui se trouve sur la colline. Uzza marchait à côté de l'arche de Dieu et Akjo devant. David et toute la communauté d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments en bois de cypress, de la harpe, du luth, du tambourin, du sistre et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de battage de Nakon, Uzza tendit la main vers l'arche de Dieu et la retint, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre lui et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uzza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut troublé de ce que l'Éternel avait infligé une telle punition à Uzza. Et cet endroit a été appelé jusqu'à aujourd'hui Peretz Uzza. David eut peur de l'Éternel ce jour-là et se dit « Comment l'arche de l'Éternel pourrait-elle rentrer chez moi ?» Il ne voulut pas prendre l'arche de l'Éternel chez lui, dans la ville de David. Et il a fait conduire dans la maison d'Obed-Edom, un homme de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom de Gath. Et l'Éternel le bénit, ainsi que toute sa famille. Voilà la première partie. Et là, on va voir qu'il faut respecter sa sainteté, respecter la sainteté de l'Éternel. Si vous avez lu ça, entendu ça, probablement vous avez la même réaction intérieure que moi. C'est exagéré. La première fois que j'ai lu ça, c'est exagéré. Il touche une boîte et il meurt. Uzza, il a perdu la vie à cause de quelque chose qui est, à la limite, un bête accident. C'est trop fort. Regardez ce qui est dit au verset 7. La colère de l'Éternel s'enflamma contre lui et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uzza mourut là, près de l'arche de Dieu. Donc notre réaction à ça peut être la même que David. Il est fâché d'abord et puis il a peur. Il dit, mais en fait, je ne peux pas avoir cette boîte chez moi. Alors on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que Dieu a agi comme ça. Je crois que ça va nous amener en fait à nous remettre en question parce que nous n'arrivons pas toujours à avoir la bonne attitude, la juste attitude devant Dieu. Dieu n'a pas changé, bien sûr. La façon de s'approcher de Dieu a changé, mais Dieu lui-même n'a pas changé. Alors c'est quoi cette arche de Dieu? En fait, c'est une boîte, verset 3, le coffre de Dieu. Il ne faut pas penser à Indiana Jones, je sais qu'il y a un film qui parle de c'est un vieux film maintenant, mais qui parle de cela. Mais c'est une boîte en bois qui est décrite en Exode 37. Et cette boîte en bois était recouverte d'or partout. Et ce coffre contenait une copie de la loi de Dieu, la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Mais ce n'était pas le contenu qui était important, c'était surtout un rôle symbolique que ce coffre avait. Le roi de Grande-Bretagne a une épée. Et cette épée, il ne la porte pas lui-même, mais elle est portée par quelqu'un pour représenter son autorité et son règne. Donc même si le roi Charles n'est pas présent physiquement dans le bâtiment ou dans un lieu, si l'épée est portée par quelqu'un, cette épée manifeste que il y a un roi. Il y a un roi et une autorité sur ce pays. Ça nous aide un peu à comprendre ce qui se passe. L'arche représente Dieu. Regardez le verset 2. Elle est associée avec le nom de l'Éternel, le maître de l'univers, qui siège au-dessus d'elle entre les chérubins. Les chérubins, c'était les anges qui étaient sculptés au-dessus de cette boîte en or. Et alors, cette boîte-là représente la présence de Dieu. Il est là. Bien entendu, Dieu est partout. Il est esprit. Et donc, si on regarde à l'extérieur, il est là, à l'arrêt de métro, il est dans la rue, il est dans les bureaux. Dieu est partout. Mais il y a certains endroits où Dieu est particulièrement présent, où sa présence est manifestée. Le buisson ardent, avec Moïse, par exemple, ou la colonne de feu dans le désert. Plus tard, ça va être dans le temple. Sa gloire va être manifestée. Et la boîte, alors, signifie que Dieu est présent avec son peuple. À un moment, en 1 Samuel, le coffre de Dieu avait été enlevé par les ennemis de Dieu, par les Philistins, et à ce moment-là, dans le temple même de leur Dieu, Dieu a agi pour que leur statue de leur Dieu tombe, parce que Dieu était présent. Il voulait montrer qu'il était là. Mais aussi, en fait, le coffre montre que Dieu règne. Vous avez entendu qu'il siège, littéralement, il trône au-dessus de cette boîte, entre les chérubins. Il est souverain sur les armées, c'est le Dieu des armées. Souverain sur les royaumes. L'Éternel est roi. Et donc, en fait, ce transport de cette boîte, c'est pas anodin. C'est David qui est en train de reconnaître que l'Éternel Dieu est roi. On va y revenir. Il reconnaît l'autorité de Dieu sur son peuple. Mais ce coffre aussi représente la pureté de Dieu, parce que c'était là où on offrait des sacrifices pour que Dieu puisse être réconcilié avec l'homme, que ces sacrifices puissent couvrir nos péchés. Alors jusque-là, tout va bien. Le coffre appartient à Israël, c'est un don de Dieu pour sa présence, pour rappeler son règne, pour sa pureté. Et on voit que le transport a été assuré à grands frais. Ils ont acheté un nouveau char tiré par des bœufs. Mais ça ne va pas. Même s'ils ont fait un petit effort de plus que les Philistins, quand les Philistins ont transporté l'arche aussi sur un char, vous souvenez, avec des bœufs, ici, avec Israël, il y a deux hommes qui sont là, les fils d'Abinadab, il y a un devant et un derrière pour s'assurer que le char aille dans la bonne direction. Il suffit que un des bœufs trébuche, le coffre vacille, semble qu'il va tomber, Uza tend la main pour le stabiliser et il meurt sur le coup. Avant qu'on ait le temps d'appeler les services de secours, il est déjà mort. Le problème est que le coffre était tellement précieux que même son transport était défini par Dieu et dans sa loi. Il devait être porté, pas par un char, mais par des hommes. Et les hommes en particulier étaient définis comme étant des prêtres. C'était des lévites, pas n'importe quel lévite, mais certains lévites qui pouvaient le porter avec des pôles. David, en fait, le reconnaît en 1 Chronique 15-13. « Nous ne l'avions pas recherché conformément aux règles. » Ils se sont dit, « Du moment qu'on arrive à avoir le coffre à Jérusalem, c'est bon. On ne va pas trop regarder les détails, on ne va pas trop penser au protocole, on va faire ce qui nous semble bon. » Et on va y arriver. Mais ça ne va pas. Si on manque de respect envers la sainteté de Dieu, on s'approche de Dieu, mais en bafouant comment Dieu a défini qu'on peut s'approcher de lui. C'est comme ceux qui regardent au soleil sans se protéger les yeux lors de l'éclipse. Il y a des centaines de personnes qui ont eu des brûlures aux yeux, ils ont été affectés par le soleil, à vie, parce qu'ils n'ont pas pris les précautions nécessaires. Dieu est un Dieu saint. L'Ancien Testament dit cela, mais le Nouveau Testament le confirme. Voici comment le Nouveau Testament exprime la sainteté de Dieu. « Dieu habite une lumière inaccessible », dit 1 Timothée 6, verset 16. Hébreux parle de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable avec respect et piété, ajoutant « Notre Dieu est un feu dévorant ». Hébreux 12, verset 29. Est-ce qu'on a perdu de vue cette description de Dieu? Est-ce que vous pensez à Dieu comme ça? Nous sommes appelés à être saints parce que Dieu est saint. 1 Pierre chapitre 1, verset 17. « Conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. » Alors des choses ont changé depuis l'Ancien Testament. Un des changements, c'est qu'il n'y a pas de lieu saint sur terre aujourd'hui. Cette estrade derrière moi n'est pas un lieu saint que seulement des personnes saintes peuvent monter là-dessus. Le fond de notre salle n'est pas un lieu saint où seulement ceux qui sont saints peuvent aller offrir une offrande. Notre salle de réunion n'est pas un lieu saint en tant que tel. Nous n'avons pas d'objet saint, mais nous avons toujours un Dieu saint. Et donc, ça nous pose question sur si notre adoration est devenue un peu trop décontractée, un peu trop cool. Est-ce que vous avez cette crainte respectueuse devant Dieu? On va comparer un petit peu les exemples d'autres chrétiens à une autre époque et nous aujourd'hui. Dans les prières, par exemple, voici des débuts de prières. Dieu Tout-Puissant qui connaît tous les cœurs et devant qui rien n'est caché. Ou Dieu d'une grandeur insondable. Voilà comment il s'approchait de Dieu. Et nous, ouais Dieu, salut Dieu, j'ai un truc à te dire Dieu. Vous voyez la différence qu'il y a entre comment eux s'approchaient de Dieu et nous, comment on s'approche de Dieu? Il est nécessaire parfois d'écouter des personnes différentes de nous parce qu'on a tendance à avoir nos propres habitudes et à s'habituer à comment on fait. Et donc je veux qu'on se laisse interpeller ce matin par trois personnes, trois points de vue que j'ai entendus récemment. Ce n'est pas mon point de vue et ce n'est pas donc moi qui parle, mais je vais les citer pour vous donner un petit peu une idée. Ce n'est pas une nouvelle loi que je suis en train de vous imposer. Ce n'est pas trois commandements qu'on va ajouter aux 10 commandements. Mais c'est pour nous permettre de nous remettre en question sur notre façon de nous approcher de Dieu. Voici comment trois personnes ont dit qu'elles montrent du respect pour la sainte présence de Dieu. Une personne a dit qu'elle veut arriver avant l'église, que l'église commence à louer Dieu. Elle veut être en place avant pour ne pas être en retard. Une autre a dit qu'elle voudrait respecter Dieu en ne buvant pas du café pendant l'adoration, pendant le moment de louange. Ce n'est pas le moment pour être là comme un spectacle avec notre pop-corn. Une autre personne disait qu'elle voulait être assise en silence avant le culte, pouvoir se concentrer sur Dieu avant de chanter et de prier. Alors nous ne devons pas nécessairement faire ça, je ne suis pas en train d'imposer ça à qui que ce soit. Mais il doit y avoir quelque chose que nous faisons par respect pour la sainteté de Dieu. Ce ne sera peut-être pas la même chose pour chacun. Du moment que notre cœur y est, je pense que ça va s'exprimer peut-être de différentes manières. Mais on doit faire quelque chose pour respecter la sainteté de Dieu, à part simplement chanter que Dieu est saint. Qu'est-ce que vous faites? Oui, nous croyons que Dieu nous couvre pour nos fautes. C'est vrai. Mais avons-nous réellement conscience de la sainteté de Dieu? Est-ce que nous sommes devant lui comme devant la plus grande majesté? Ou sommes-nous plutôt là avec notre copain au bistrot? David était choqué parce que ce jour-là, il a découvert que Dieu était beaucoup plus saint qu'il le pensait. La sainteté de Dieu était fatale pour Uzza. Heureusement, depuis lors, Jésus est mort. Et le jour où Jésus est mort à la croix, il y a eu un changement énorme. Le rideau qui empêchait l'accès au lieu très saint dans le temple a été déchiré du haut en bas. C'était une déchirure miraculeuse. C'est Dieu qui a fait cette déchirure. Ce n'est pas les hommes. afin que la sainteté de Dieu soit accessible par tous ceux qui croient au sacrifice de Christ. Et donc la séparation du lieu très saint avec nous, qui sommes ordinaires, n'est plus. Nous sommes invités, au contraire, comme le dit Hébreux 10, « Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Approchons-nous donc avec un cœur sincère et une foi inébranlable. » Voilà où nous sommes invités. Nous sommes invités à nous approcher de Dieu dans le ciel. Dans sa grâce, Dieu nous a offert une deuxième chance. Et il a même béni. Il ne voulait pas faire du tort vraiment aux gens, il voulait faire du bien. David se trompe en pensant que voilà, c'est bloqué, c'est pas possible d'avoir Dieu parmi nous. Mais l'homme qui a accueilli ce coffre chez lui, je pense qu'il n'a pas eu trop le choix. On lui a dit voilà, prends ça, ça va rester chez toi maintenant. Probablement il avait l'impression de recevoir un petit cadeau empoisonné. Merci, je vais prendre cette boîte maudite chez moi. Mais ce n'est pas une malédiction. Il a dit, Dieu l'a béni, parce que Dieu veut faire du bien. La présence de Dieu est sainte, mais elle est aussi extraordinaire et elle est bonne pour ceux qui s'approchent de lui. Lisons maintenant la suite de Samuel, chapitre 6, verset 12. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la famille d'Obed-Edom et tout ce qui lui appartient à cause de l'arche de Dieu. David se mit alors en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Edom jusqu'à la ville de David, au milieu de réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Il était habillé d'un éphod en lin. David et toute la communauté d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre lorsque l'arche de l'Éternel entra dans la ville de David. Et en voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle éprouva du mépris pour lui dans son cœur. Une fois qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on la mit à sa place, au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit des holocaustes et des sacrifices de communion devant l'Éternel. Quand elle eut fini d'offrir les holocaustes et les sacrifices de communion, David bénit le peuple au nom de l'Éternel, le maître de l'univers. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la foule d'Israël, hommes et femmes confondus, un pain, une portion de viande et un gâteau aux raisins. Et tout le peuple repartit, chacun chez soi. David retourna chez lui pour bénir sa famille et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël ! Il s'est dénudé aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme le ferait un homme sans valeur. » David répondit à Michal, « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père, à toute sa famille, pour m'établir comme chef sur son peuple, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus petit que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Toutefois, je serai honoré auprès des servantes dont tu parles. » Michal, fille de Saül, n'eut pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Ici, nous sommes encouragés à célébrer sa présence. Célébrer la présence de l'Éternel. On parlera de Michal plus tard, mais le point essentiel ici est que le deuxième essai est une réussite. On porte l'arche, il n'y a plus de char. C'est les hommes qui sont censés le porter, les prêtres, lévites, lévitiques qui le portent. Des sacrifices sont apportés et l'arche est transportée sans problème jusqu'à Jérusalem où elle va rester dans une tente. Versets 14 et 15 décrivent la scène. Il est en train de dire ce qui s'est passé. Il y a de la danse, David danse, il est habillé d'un éphod en lin. David et toute la communauté d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie, verset 15, et au son des trompettes. Il y a des gens, il y a de la joie, il y a de la musique. C'était une célébration immense. Parce qu'on se réjouissait, parce que Dieu était présent. Car l'Éternel le bénit. Il a béni Obed-Edom, verset 11. David bénit le peuple. David va bénir sa famille, verset 20. Dieu est présent, et quand il est présent, il nous fait du bien. David était certainement quelqu'un de très expressif. Pour l'occasion, David s'est habillé dans un vêtement en lin. Ça s'appelle un éphod en lin. Et beaucoup a été écrit sur ce vêtement, comme si c'était ses sous-vêtements, ou s'il était en pyjama, ou si c'était inapproprié. Mais en fait, il est habillé comme un prêtre. Samuel était habillé dans un éphod en lin quand il était un petit garçon dans le temple, dans la tente de Dieu. Les prêtres sont décrits en 1 Samuel comme étant habillés en éphod en lin. Et donc David agit comme un prêtre à ce moment-là. Il conduit les louanges de son peuple, il offre des sacrifices, il bénit le peuple, il agit comme un conducteur de louanges. Et dans cette phase, il est clair que David ne se considère plus comme la star. J'ai regardé un concert classique où il y avait un soliste. Vous savez, le soliste, il chante devant les autres. Mais après, j'ai vu que le soliste s'était retiré. Il y avait le chef d'orchestre devant. Le soliste avait chanté à côté de lui, et puis il y avait l'orchestre derrière, et puis derrière, eux, il y avait la chorale. Et ce soliste s'est joint à la chorale au fond, il s'est fondu dans la chorale. Et c'est pareil ici. David n'est pas en train de faire un solo, il est en train d'adorer avec les autres adorateurs, il est dans la foule de ceux qui louent Dieu. Et il danse, parce que dans toutes les cultures, lorsqu'il y a de la joie, on danse. Alors, ce n'est pas un ordre pour dire qu'il faut danser à l'église. C'est simplement la description de ce que David a fait à ce moment-là. Et à vrai dire, c'était probablement le genre de gars qui a dansé quand il a vaincu Goliath. Ou quand il a entendu que Michal était prête à devenir son épouse la première fois. Il était content. Probablement, il a dansé. Le problème n'est pas lui. Le problème, c'est celle qui le critique. Vous regardez, tout le monde est en train de regarder à Dieu et d'avancer ensemble, sauf Michal qui, elle, est en train de regarder David. Elle le voit de sa fenêtre et elle le méprise. Elle ne célèbre pas la présence de Dieu. Elle regarde à son mari et elle pense qu'il a l'air stupide. Critiquer David pendant qu'il célèbre la puissante présence de Dieu. C'est comme critiquer quelqu'un qui regarde l'éclipse parce qu'il porte des lunettes de protection en disant « Tu as l'air stupide avec tes lunettes. » Ouais, mais on est tous en train de regarder le soleil. C'est ce qu'il faut pour s'approcher de Dieu. Pour elle, ce qui compte, c'est qu'il ne porte pas ses vêtements royaux. C'est dans ce sens-là qu'il est dénudé, parce qu'il ne porte pas ses longues robes de roi. Et c'est vrai, à ce moment-là, il est en train d'agir comme un simple serviteur de Dieu, un simple prêtre. Mais elle redoute que les servantes dans le royaume, qui pour elle sont les personnes qui ont le moins de statut dans le royaume, vont le mépriser, vont perdre le respect pour lui. Or, ce n'est pas pour elle qu'il danse. David n'est pas en train de faire un spectacle, il se perd devant la grandeur de Dieu. David est prêt à enlever ses habits royaux parce qu'il sait qu'il est dans la présence d'un plus grand roi que lui. David ne pense plus à son apparence, il pense à son comportement devant Dieu. Remarquez comment il le dit très souvent. C'est devant l'Éternel, verset 14, verset 16, devant l'Éternel, verset 21, deux fois, devant l'Éternel, pas devant les autres. Il est conscient de la présence de Dieu et il est prêt à s'humilier. Mais il sera respecté par les autres parce qu'elles vont voir en lui quelqu'un de passionné, quelqu'un qui loue Dieu. Alors lorsque nous louons, nous ne devons pas nous tromper d'auditoire. Nous ne devons pas nous orienter vers les autres en disant qu'est-ce que les autres pensent pendant que je suis en train d'adorer Dieu. Nous n'avons pas orienté notre salle pour être face les uns aux autres. Nous sommes tous face à la même direction, nous regardons tous vers l'avant. Et en fait, nous ne regardons pas les chanteurs ou les musiciens. Notre attention va au-delà d'eux, vers notre Dieu et vers les paroles que nous chantons. Du coup, notre attention ne doit pas être détournée pendant que nous sommes en train de louer Dieu. Ne posez pas la question « De quoi ai-je l'air en faisant comme ça ?» Il ne faudrait pas penser « Est-ce que j'ai l'air bête ?» Mais on devrait se poser la question « Est-ce que je suis distrayant aux autres ? Est-ce que je les distrais de Dieu ? Ou est-ce que je juge les autres pendant que eux chantent à Dieu, comme Michal ? Ou est-ce que je suis trop restreint ?» Vous savez, certains sont très calmes. On dit « Notre chien est mort » avec la même voix qu'on dit « Ma fille va se marier ». On est juste très calme. Certains ont beaucoup d'enthousiasme. Et puis, il y a ceux qui ont de l'enthousiasme dans un domaine, mais pas dans un autre. À Londres, dans l'Est, vous arrivez dans un coin de Londres où il y a tous les gars durs. Des gars qui ont travaillé dans les Docklands. Et c'est là où il y a les gens peut-être un peu les plus endurcis. Mais faites un tour là et entrez dans un stade et vous entendrez des milliers d'hommes en train de chanter ceci. Je ne vais pas le chanter, mais je vais lire les paroles de leur chant. Je souffle sans cesse des bulles, jolies bulles dans l'air. Elles volent si haut, presque au ciel, puis comme mes rêves, elles s'effacent et meurent. La fortune toujours cachée, j'ai cherché partout, je souffle sans cesse des jolies bulles dans l'air. Et ils chantent, mais vraiment à fond. Et vous pouvez regarder les vidéos, si vous cherchez des chanteurs de West Ham, tous les mains en l'air. Ils sont en train de chanter des trucs qui sont superficiels, mais ils chantent avec énormément de ferveur. Et ils n'ont pas peur. Alors pourquoi ne pouvons-nous pas avoir la même ferveur pour Dieu que eux ont pour leur club de football et pour les bulles? Voici ce que quelqu'un a écrit par rapport à ceci. Il y a certes des moments pour être calme et d'autres moments pour être exubérant. Mais faut-il réserver toute notre froideur pour Christ et tout notre enthousiasme pour le monde? À méditer. Alors après avoir été critiqué pour son attitude, la réponse de David est cinglante, verset 21. « L'Éternel m'a choisi de préférence à ton père, à toute sa famille. » Il sait que Michal était plutôt une fille de Saül à ce moment-là. C'est mentionné trois fois, fille de Saül et pas épouse de David. Parce que comme son père Saül, elle méprise David. Elle rejette David. Au lieu d'être comme son frère, Jonathan, qui était loyal à David et qui respectait David. Quelle est notre attitude? Et puis je vous ai promis un bonus. C'est le verset 23. Étrange bonus, mais je vais le lire, je vais le relire. Verset 23. Michal, fille de Saül, n'eut pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Il ne s'agit pas ici d'une intervention de Dieu. David a décidé tout simplement de ne plus coucher avec Michal. Et Saül n'aura plus de descendants. Saül n'aura plus de petit-fils, descendant de Michal, descendant de David. Mais ça m'a fait penser à ce fait qu'ils ne couchaient pas ensemble, à des mariages sans relation sexuelle. Et je pense qu'il faut dire deux mots là-dessus, parce que ça se présente ici dans ce texte. On peut comprendre, bien naturellement, David et Michal sont en conflit. Michal a manqué de respect envers David, et David est fâché avec Michal, et donc voilà, c'est chambre à part. Mais c'est chambre à part à vie. Et Dieu, en 1 Corinthiens 7, encourage les couples mariés à entretenir leur vie conjugale. Et donc nous ne devons pas permettre qu'un conflit devienne quelque chose qui dure et qui empêche un couple d'avoir une vie sexuelle normale. La dispute doit être de courte durée, vous devez vous mettre d'accord, et vous devez faire un encouragement, vous devez vous encourager à faire un effort volontairement pour revenir ensemble. Bien sûr, le consentement est une valeur biblique. On ne peut pas dicter à sa femme ou à son mari, on va faire ça. On ne peut pas forcer quelqu'un, même dans le cadre du mariage, bien entendu. C'est toujours consensuel. Mais il faut faire un effort pour que le mariage ait régulièrement l'expression de notre intimité physique. Mais aussi, il ne faut pas se laisser conquérir par l'échec. Ne soyez pas conquis par l'échec. Si vous êtes de ceux qui ont essayé et vous avez dit ouais, on a essayé le sexe, mais ça ne marche pas pour nous, il ne faudrait pas se laisser décourager. Il y a moyen de s'améliorer, de faire renaître le désir. Ne pas abandonner cela, mais prenez soin de votre épouse, de votre mari dans ce domaine. On peut avoir une vie sexuelle épanouie en tant que couple de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour les mariages. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est imiter les pratiques qu'on a vues dans un film. Dans le couple, il faut de la douceur, il faut de la gentillesse, il faut du respect l'un pour l'autre, et ça ne doit pas être un lieu de harcèlement. Le sexe est un don précieux que Dieu a donné au couple marié. Le sexe en dehors du mariage reste un péché parce qu'il ne respecte pas le cadre de l'alliance que Dieu a prévu pour les relations sexuelles, pour unir un couple que Dieu a uni. Cette parole peut être une parole de saison pour quelqu'un, j'espère que ça vous fera du bien. N'hésitez pas à venir m'en parler si vous le souhaitez. Mais ce message ne concerne pas principalement le mariage de David. Ce message concerne l'histoire d'un leader, certes un peu impulsif. Le mariage à Michal, finalement, était un échec. Mais un leader qui était prêt à s'oublier dans l'adoration du Dieu très saint. David ne faisait pas un spectacle. David n'attirait pas les regards sur lui. David pensait seulement à son Dieu, à son roi. Et donc nous devons suivre, pas David, mais notre Messie, qui conduit notre adoration, qui déclare le nom de Dieu à ses frères, et qui nous encourage à entrer dans le lieu très saint au ciel avec lui, pour là être dans la présence de notre Dieu saint, et recevoir de sa part ses bénédictions spirituelles. Prions ensemble. Oui Seigneur, nous avons par Jésus l'accès au lieu très saint, ton trône dans le ciel. Merci parce que nous n'avons pas besoin d'une boîte sacrée, nous n'avons pas besoin de vêtements spéciaux, nous n'avons pas besoin d'un prêtre sur terre, ni d'un endroit spécial pour te rencontrer. Mais par Jésus, nous pouvons être directement en ta présence, savoir que tu es pour nous un Dieu saint, mais aussi un Dieu qui pardonne, un Dieu qui accueille, un Dieu qui nous accepte. Seigneur, nous voulons être dans ta présence, vivre en communion avec toi, en bonne relation avec toi. Permets que nous puissions régulièrement revenir en ta présence afin d'être des adorateurs comme tu le désires, des hommes et des femmes qui ont été sanctifiés, purifiés. Et nous voulons t'aimer et nous voulons nous réjouir en ta présence parce que tu nous as fait tant de bien. Au nom de Jésus. Amen.